Bonjour et bienvenue sur Fréquence Diagonale. Eh bien, cette émission est de retour en Corse. Nous sommes avec le président de la Ligue de Corse, Léo Battesti. Bonjour Léo.
Bonjour Stéphane, bonjour.
Alors Léo, tu es en altitude, hein, tu me dis.
Oui, je suis un petit village. C'est un hameau, je suis à peu près 1000 mètres d'altitude dans le sud de l'île.
Oui, alors la Corse, elle a cette caractéristique d'être une île qui possède tout, quoi, parce qu'il y a la forêt, les montagnes et les plages.
C'est une île, c'est une montagne dans la mer. On est de la Corse, une montagne dans la mer. Elle est beaucoup plus une région de montagne, d'ailleurs, et de bergers aussi, que de pêcheurs, et malgré les 1000 km de côte. Et il y a, je crois qu'il y a plusieurs dizaines de sommets à plus de 2000 mètres, hein, donc c'est vraiment, je conseille d'ailleurs aux gens qui visitent l'île de ne pas s'engluer sur les plages, mais de venir un peu dans l'intérieur, parce que c'est encore plus remarquable, je trouve.
Oui, une magnifique île que j'ai eu l'occasion de visiter quelques fois et de venir aussi pour...
J'ai en face de moi les aiguilles de Babel, pour ne rien te cacher. Tu vois, juste en face de moi, il y a plus de... Je crois qu'il y a 800 000 personnes dans l'année qui viennent les visiter. Donc, elles sont juste en face de moi.
D'accord, superbe. Donc, on imagine tout ça et on pourra écouter cette émission en regardant quelques images de Corse. Donc évidemment une île à visiter, à connaître, l'île de beauté qui n'a pas volé son nom, voilà. Alors c'est aussi depuis maintenant presque 20 ans devenu, sous ton impulsion, un des pôles mondiaux, hein, du jeu d'échecs, avec ce fameux Open Corsica, mais pas que, bien sûr, il y a aussi toute cette politique de travail de fond pour la formation des jeunes. Et alors cette année, tu as annoncé, pour commencer par ça, le retour, hein, de la championne en titre, de Yifan Hu, ou Yifan, hein, la chinoise, qui a donc l'an dernier, à la surprise générale quand même, un petit peu, remporté cette Open Corsica.
Oui, tout à fait. Yifan est très attachée sincèrement à l'île et aux amitiés qu'elle y a développées. Elle m'a souvent appelé dans l'année pour me dire qu'elle était partante pour... briller de nouveau le titre donc du Corsican Circuit, et c'est bien volontiers que nous l'accueillons à nouveau. Alain malheureusement ne pourra pas venir cette année puisqu'il est engagé dans un autre événement, mais nous aurons un grand plateau avec beaucoup de grands maîtres internationaux, de grosses pointures qui viendront ici. Donc ça va être vraiment encore un gros challenge pour la numéro 1 mondiale. Je dis numéro 1 parce que je crois que depuis peu elle est devant notre amie Judith Polgar. Et il y a je dirais, toute une activité autour de ce Corsican Circuit qui est remarquable. En plus, il y a des tournois spécifiques. Cette année, nous avons même élargi le trophée BNP Paribas des jeunes. On en fait deux, hein, à Bastia-Ajaccio, où il y a 30 000 euros de prix en nature. Alors, ça va des iPads, en passant par les ordinateurs portables. Il y a 300 prix différents pour les jeunes. Et on a vraiment descendu la base. Vous savez qu'on a en Corse... un système de classement spécifique des élos corse qui commence à partir de 200 points élo. Par exemple, des gosses qui sont en CP, qui apprennent les échecs en CP, ils ont 200, 300, on monte de catégorie d'âge, je dirais, de 200, 300, 400, 600, etc. Et il y aura des prix pour toutes ces catégories. Donc, on va avoir 300 prix différents sur l'ensemble des deux tournois. Donc, ça va être vraiment une grande fête, et elle est symbolique de ce que nous essayons de faire, à la fois le grand événement avec Elite. On a une centaine d'entreprises qui nous soutiennent, hein.
Oui.
C'est l'une des manifestations en Corse qui est la plus autonome, je dirais. Nos fonds propres représentent 60% d'un budget global d'un peu plus de 120 000 euros, je crois. Donc nous avons énormément de partenaires privés, et ça prouve l'impact sociétal de cette activité en Corse, et nous en sommes très fiers.
Oui, et c'est vrai que c'est extrêmement agréable, en plus, quand on vient jouer, de voir l'énergie dégagée par tous ces jeunes, hein, qui chaque année participent en masse, effectivement, à cet événement. Alors, à noter, d'ailleurs, que l'an dernier, puisque j'y étais, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait, je crois bien, la création du club d'échecs d'Ajaccio, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé à Ajaccio, exactement? Des nouveaux locaux, voilà, c'est ça. Des nouveaux locaux.
Voilà. Le club d'Ajaccio a quand même quelques années.
Oui, oui.
C'est d'ailleurs le deuxième club au niveau fédéral, au niveau du nombre de licenciés. S'il y a sur le club d'Ajaccio, des nouveaux locaux qui sont remarquables, hein, qui sont situés pratiquement bord de mer à Ajaccio. Bon, pour ceux qui connaissent Ajaccio, c'est une région aussi assez remarquable. Et la baie le golfe d'Ajaccio, ce n'est pas rien. Et donc, on a de vastes locaux donc, qui sont très bien situés. Et il y a une dynamique considérable sur Ajaccio. Désormais, il y a un équilibre régional en Corse. On a énormément de régions qui sont au même niveau, non seulement au niveau du nombre de joueurs, de jeunes, mais même au niveau qualitatif.
Oui, alors, je peux revenir juste deux secondes sur l'Open Corsica. Je voulais signaler pour les auditeurs que notamment parmi les grands maîtres, il y en a beaucoup effectivement de top niveau mondial qui viennent, mais on a deux super grands maîtres français qui viennent, puisque Laurent Frayssinet et Romain Edouard
ont
confirmé leur participation.
Viennent tous les deux, ouais. Et Maxime, je crois qu'il a d'autres engagements également, mais je ne dis pas que nous ne voulons pas avoir de très forts joueurs, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de créer un grand moment de convivialité où des joueurs moyens, hein, ou même un peu plus forts hein, que sûr. La moyenne, je dirais, peuvent se mesurer à des joueurs comme Wifan ou à ceux que tu viens de citer. Donc je crois que c'est vraiment important qu'il y ait ce mélange, c'est ce côté un peu démocratique du Corsican Circuit qui est intéressant. Il n'y a pas de séparation entre les grands joueurs avec dans des trucs fermés, etc.
Oui.
Non, ils sont tous au milieu. Les plus grands joueurs du monde ont tous participé au moins une fois à ce tournoi, et c'est vraiment quelque chose auquel nous tenons. On l'a créé en 1997, et l'année prochaine nous fêterons ses 20 ans, et je crois qu'on fera quelque chose de considérable en cette occasion, et on en est très fiers, et c'est le fruit d'une association. Ce n'est pas du tout une structure extérieure aux associations qui va donner quelques dizaines de milliers d'euros pour pouvoir faire quelque chose. C'est vraiment ça l'aide de notre réalité échiquéenne, de notre réalité de terrain. Et je crois que c'est assez unique en la matière. Nous n'avons pas de mécènes, nous n'avons pas de Qataris derrière nous, nous n'avons pas de milliardaires. Nous avons le fruit de notre travail et l'impact que nous avons sur la société. Et ce sont, par petites masses, hein, de 500 euros à 10 000, hein, des gens, des structures qui nous soutiennent à travers une communication.
Oui, et un très bel événement à voir. Alors évidemment, la Corse, c'est pas que ça, et on va faire aussi un tour de Corse avec toi, si tu veux bien, puisque, alors, tu en as parlé déjà tout à l'heure, il y a maintenant une caractéristique aussi en Corse, c'est que donc, vous avez mis en place, mis au point, votre propre classement Elo indépendant, en fait. Hein.
Oui, parce qu'il tient compte, moi je crois, c'est prétentieux ce que je vais dire, mais je crois que nous sommes en avance au niveau des échecs depuis pas mal de temps. Les échecs ont eu une démarche totalement élitiste, l'évolutionnisme, c'est-à-dire les plus forts restent ou les plus masochistes, et puis rien n'est fait, je dirais, pour le tournant, c'est-à-dire des joueurs un peu, même d'un niveau plus bas que le mien, hein. Je veux dire, moi je suis un joueur moyen, puisque je suis allé autour des 1900, je stagne autour des 1700, mais l'immense majorité des joueurs, c'est un peu plutôt comme moi, même la moyenne est low, je crois, des joueurs, même dans un système élitiste, c'est autour de 1600. Hein.
Oui.
Donc, je veux dire que ce qu'il faut penser en termes d'élargissement, et il y a une base considérable que l'on peut créer. Si l'on répercutait le nombre de gens qui ont été formés aux échecs en Lille, plus de 40 000 qui ont été formés depuis la création de la Ligue, c'est comme si, au niveau de l'ensemble fédéral, vous aviez des millions de gens qui étaient venus dans le monde des échecs. Hein. Il y aurait actuellement près d'un million de licenciés à la Fédération française des échecs.
Oui, en termes de pourcentage de la population corse, c'est tout à fait important.
Oui, il faut multiplier par 300, je crois.
Oui.
Donc ce qui veut dire, et ce n'est pas propre uniquement, au niveau de la Fédération française, c'est un peu général, on se rend compte qu'ailleurs, c'est vraiment une élitiste des choses. Alors, il y a de grands événements, hein, avec maintenant, des fois, il y a en particulier quelques partenaires américains ou autres qui mettent, particulier à Saint-Louis, hein, il y a milliardaires, mécènes, c'est très bien, hein, puis ça, c'est vraiment des gens qui aiment les échecs, ça fait, je crois, de plus Fischer, hein, que ce milliardaire est intéressé par les échecs. Mais en dehors de ça, ailleurs, c'est de l'argent douteux. Quand on va dans certaines régions, en particulier l'URSS, je me demande d'ailleurs ce que quand ça tiendra vu la crise russe de l'URSS, de l'ex-URSS.
Oui, oui, oui.
De la crise russe.
On avait compris.
Il y a quelques argent, un peu d'argent du Moyen-Orient, mais autrement, c'est la pauvreté totale. Les joueurs aujourd'hui, les professionnels, vivotent de plus en plus. Il faut qu'ils diversifient leurs activités. Or, si l'on développe vraiment une politique populaire au niveau des échecs, si vraiment on pense à s'ouvrir vers le monde, Là, on crée des conditions économiques nouvelles qui profitent également au monde professionnel. Moi, c'est terrible à dire, je crois que c'est Laurent Freycinet ou Bacroche qui l'avait écrit. C'est le seul fois qu'on voit les meilleurs joueurs français, c'est en Corse aujourd'hui. À part le championnat de France, et encore même au championnat de France, je vois que malheureusement, de temps en temps, il manque les principaux. Donc je veux dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il n'y a pas les capacités, au lieu de penser toujours en termes de manifestations consanguines, les sempiternelles, le tournoi interne, les tournois de ceci, de cela, où les mêmes, les plus motivés se retrouvent sous des formes différentes, c'est bien, et ça existe aussi en Corse. Il faut absolument développer une pratique populaire, il faut intéresser les enfants, les jeunes à des tournois, le blitz est l'arme suprême en la matière,
oui.
Alors qu'il est pratiquement... Il est marginalisé dans le dispositif fédéral. Donc il faut absolument aller sur le terrain et appeler à avoir le plus de gens possible. Et il faut revoir les structures de clubs traditionnels, elles ne sont plus du tout adaptées. Il faut créer des maisons des échecs, surtout dans des ensembles où il y a du monde, où il y a des populations autour. Il y a des tas de choses à faire, et c'est vraiment une stratégie qu'il faut mettre en place. Malheureusement, on n'en prend pas le chemin. Voilà, je tenais à le dire. Donc je regrette que le contrat soit de plus en plus saisissant entre un développement basé sur cette stratégie et une stagnation qui confine toujours à l'élitisme. Je le regrette.
Oui, alors moi c'est vrai que ça fait partie d'une réflexion de fond et d'action de fond, et que tu as montré en Corse, effectivement, comment on pouvait avoir une stratégie plus générale, et puis ouvrir le jeu, bien entendu, vers les amateurs qui sont encore en découverte et qui ont besoin, bien entendu, d'événements qui les concernent et pas forcément toujours s'axer sur des événements uniquement élitistes ou effectivement centrés et qui ne font pas d'efforts pour s'ouvrir vers un plus grand nombre. Je suis entièrement en phase avec, évidemment, cette approche, et c'est pourquoi Fréquence Diagonale essaie de faire comme ça bien un petit podcast pour que ce débat ait lieu aussi entre les différentes régions de France, entre les différents responsables, et qu'on ne parle pas que de jeux d'échecs sur le plateau, mais aussi de jeux d'échecs en termes d'organisation et de développement. Alors, parlons de développement donc de la Corse. On a bien sûr l'Open Corsica. Alors, est-ce que tu pourrais rappeler aussi... Alors, on va rappeler les dates aussi, c'est très important. C'est 15 ou 19, c'est ça hein.
Non,
17, 17 ou 19
17, le 17, 18, 19 à Bastia, et la finale a lieu à Ajaccio le 21.
Voilà, 17.
Du 17 au 19 à Bastia. Hein,
voilà.
Avec le Canos Caro, qui est doté, je crois, de 50 000 euros de prix.
Oui.
Voilà, plus un tournoi de Blitz Coca-Cola, je crois, avec 5 000 euros de prix, hein, qui est au milieu, hein, qui est une espèce de consolante. Et puis, je disais tout à l'heure, le trophée BNP Paribas des jeunes, les deux trophées, hein, Bastia et Ajaccio, qui ont 30 000 euros de prix en nature.
D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire aux auditeurs qui souhaitent aller à cette Open, il faut absolument rester en Corse pour aller voir la finale à Ajaccio. C'est très facile de faire Bastia à Ajaccio, il y a une ligne de train directe entre les deux, et vraiment, ça vaut le coup de rester pour aller voir cette finale, même s'il n'y a pas d'autres tournois à jouer à Ajaccio, mais il faut prendre le plaisir de voir cette finale dans une ambiance de folie, hein, parce que c'est toujours plein, et c'est vraiment un spectacle vraiment extra, très très bien mis en scène. Voilà, un des meilleurs qui soit. Alors, ça c'est pour l'Open Corsica. Alors, est-ce que tu pourrais aussi nous dire, donc, pour cette saison, quelles vont être les grandes dates, les gros autres grands événements, que ce soit pour les jeunes ou les tournois internationaux qui sont prévus et qui sont maintenant un peu réguliers en Corse. Alors, pour cette saison, ça va se passer quand?
D'abord, d'emblée, je veux dire, pour rester conforme à ce que je disais tout à l'heure, notre stratégie,
oui,
c'est la globalité. Je voudrais dire juste un chiffre. Nous organisons plus de 400 tournois dans l'année dans l'île. 400. Alors ça va du petit tournoi scolaire avec une vingtaine, trentaine de jeunes à la manifestation sur la place Saint-Nicolas où il y a 3500 jeunes, mais nous en organisons 5000. C'est considérable, je tiens à rendre hommage à nos 16 formateurs salariés, à nos 5 vacataires et aux centaines de bénévoles que nous avons dans toute l'île qui permettent cette organisation. Parce que ça, c'est la grande force aujourd'hui de la Ligue Corse, c'est que la Ligue s'est développée historiquement dans la région bastiaise et que petit à petit, il y a eu une pénétration territoriale considérable. Et aujourd'hui, il y a des régions, par exemple, comme la région de Porto Vecchio, qui est dans l'extrême sud de l'île, on est facile, mais les échecs, c'est quelque chose d'incroyable désormais dans cette région. C'est des centaines de participants à des manifestations. C'est d'ailleurs un tournoi maintenant qui monte en puissance. L'an dernier, d'ailleurs, a été le premier Open Open International, donc de Lecce et de Porto Vecchio. Donc il y a énormément de choses, plus des manifestations que nous avons dans la région. Donc il y a énormément d'activités. Alors il y a ces tournois de masse, il y a justement ce classement élu Corse, oui, qui permet, parce que vous, moi je me rappelle que j'avais fait une fois un article sur Chess Buzz, qui a été publié sur Chess Buzz, sur l'analyse de la FIDE au niveau général et du nombre de joueurs par pays qui étaient FIDE, où on voyait qu'il y avait des pays où il y avait un taux d'inactivité des joueurs FIDE qui était autour de 60%, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait jamais d'activité. C'était des gens qui stagnaient là-dessus, mais qui petit à petit, souvent c'est parce que certaines organisations ne souhaitent pas donner de l'argent à la FIDE, mais donc certains tournois ne comptent pas, mais souvent ça traduit aussi un manque d'activité organisée pour la masse des joueurs. Chez nous, la masse des joueurs joue au moins un tournoi dans l'année. Donc il y a un taux d'activité de 100%. Mmh. Tous les jeunes, vous pouvez aller sur le site de la Ligue, il y a un site spécifique pour le classement et le Corse. Par exemple, l'an dernier, nous avons eu 7389 joueurs dans toutes lignes qui ont tous fait des parties et qui ont tous un classement individuel. Et ça, c'est considérable. En plus, il est immédiat, c'est-à-dire vous faites un tournoi, le lendemain, il y a le résultat et il y a le calcul des points qui est fait sur le site. Je vous invite à y aller pour voir un peu la réalité de ce que ça représente. Donc, il y a tous ces tournois et puis, bien sûr, ensuite, il y a des événements internes à la Ligue qui sont importants. Par exemple, nous avons une compétition interne de club, hein, parce que nous ne sommes pas contre les compétitions de club, qui réunit deux fois par an à Corte 160 joueurs, qui représentent l'ensemble des clubs insulaires. Et puis, nous avons énormément de tournois internes qui comptent pour le classement international. Par exemple, le club de Bastia en organise deux dans l'année, celui d'Ajaccio en organise un. Donc, il y a énormément de tournois de classement FIDE. Ça, c'est des choses que les gens ne connaissent pas, puisque c'est un peu intramuros, je dirais, au niveau de la Corse. Mais ensuite, il y a tous les événements internationaux. Alors, les événements internationaux, je suis obligé de dire que c'est le plus important aujourd'hui au niveau fédéral. Hein. Il y a très peu d'événements, à part bien sûr le Cap d'Agde, Cappelle-la-Grande, qui peuvent prétendre rivaliser avec cette réalité.
Le championnat de Paris aussi. Il faut citer le championnat de Paris, qui est quand même important aussi, avec un très haut niveau international et beaucoup de participants. Même si, bien sûr, pour Paris, on pourrait s'attendre à faire plus.
Non, mais ça, c'est un peu normal. Hein. Mais au niveau, je dirais, des tournois, nous avons d'abord, comme Open International, nous avons l'Open International de Balade, à Calvi, qui aura lieu en avril, hein, cette année, qui a une bonne dimension, hein, avec énormément de grands maîtres. Nous avons ensuite le match de Porto Vecchio. Ça fait maintenant, je crois, 12 ans que nous faisons ce match, toujours entre deux grands joueurs. Ça allait de Spa, on a fait les Karpov Spassky, les Radjabov Karsen, les Wifan, les Wifan Zomni, les Judith Polgar, vraiment tout l'élite mondiale est venue à Porto Vecchio pour faire ce match dans une ambiance incroyable. Hein. Tu parlais de celle d'Ajaccio, mais je crois que là c'est encore pire
pour nous,
encore mieux, puisque nous avons 400 à 500 jeunes de toute la région de Porto Vecchio qui viennent et qui avaient les commentaires ouverts. C'est notre spécialité quand on fait des matchs comme ça. Tout le monde entend le commentaire basique de nos formateurs. Tous ces jeunes, c'est très pédagogique pour tous ces jeunes, avec bien sûr l'accord des joueurs, hein, et ça ne pose aucun problème d'ailleurs. Hein. Il vaut mieux ouvrir vers l'extérieur et commenter que de les enfermer dans des cages, hein, comme ça a été tenté dans certains pays. Donc on est dans une logique vraiment de spectacle. Hein. On est également, bien sûr, le tournoi international, le tournoi européen, qui se fait sur la place Saint-Nicolas pendant le grand tournoi scolaire dont je parlais tout à l'heure. Il y a 3500 jeunes sur la place Saint-Nicolas. Et là, nous avons toujours 6 équipes qui viennent d'Europe, qui jouent de jeunes avec des U10, U12, U14, U16, U18, hein, constitués donc de 5 joueurs. C'est un grand événement. Puis nous avons le Corsican Circuit. Et puis, je crois que j'ai oublié, bien sûr, l'Open de Portici, l'été. L'Open de Portici, c'est maintenant devenu franchement un des plus grands Open au niveau européen. Je parle d'Open. Hein. L'an dernier, il a été remporté par un Ukrainien, un jeune Ukrainien dont je ne me rappelle plus le nom, tellement il est un peu compliqué comme tous ces noms ukrainiens. Mais je vous invite à venir. Qui est jeune d'ailleurs, 26 ans. Je ne me rappelle plus. Allez, je commence un peu à me faire vieux là. J'ai un peu la mémoire. D'ailleurs, pour citer, je crois que Laurent Frécinet n'a terminé que troisième de ce tournoi. Il y avait vraiment, il y avait le numéro 1 tchèque, etc. Il y avait, je crois qu'il y avait 12 grands maîtres internationaux. Donc ça s'annonce très bien. Et puis nous faisons ces Open d'Oblige de l'été qui sont un régal. Dotés tous d'environ 10 000 euros de prix, aussi bien à Chamanach qu'à Quince. À Chamanach, c'est devenu un rendez-vous international désormais, depuis c'est la 6e édition. Karpov n'avait pas réussi à le gagner, c'est dire. Il y a vraiment, cette année, nous avons eu, je crois, aussi une dizaine de grands maîtres qui ont participé. Donc, on a tout un panel de manifestations internationales qui sont quand même importantes. On pourrait en faire plus, je ne le cache pas, il y a des sollicitations ailleurs, mais je veux ménager un peu nos troupes, hein, et moi-même aussi, par la même occasion. Et on est toujours dans cette même logique. C'est ça qui est très intéressant à regarder. C'est que quand on est à Ajaccio, quand on est à Porto Vecchio, quand on est à Bastia, quand on est à Calvi, ce sont des acteurs différents qui nous soutiennent, des sponsors locaux qui nous aident et qui nous permettent d'abonder à pratiquement la quasi-intégralité des frais du tournoi sont pris en charge par ce sponsoring. Et ça, c'est quelque chose de remarquable. Il y a même, je ne le cache pas, pas mal d'événements qui sont bénéficiaires. Pourquoi ? Parce que ils ont un tel impact, il y a tellement de soutien que finalement on en tire même pour les clubs locaux certains bénéfices hein, qui ne sont pas négligeables.
Ce qui permet de développer ces événements d'une année sur l'autre aussi, bien sûr.
Ah oui, tout à fait. Il y a des fonds propres. C'est-à-dire qu'il y a, vous savez, la Ligue de Corse, elle n'a eu aucun exercice déficitaire, ou le seul peut-être, c'était moins de 3000 euros. Hein. Donc elle a des fonds propres, malgré le fait qu'elle ait une masse salariale que je crois qui est deux fois supérieure à celle de la fédération, hein, pour donner un ordre d'idée, hein, puisque nous avons 15 salariés CDI hein, qui gagnent, qui ont des salaires moyens, qui sont cohérents hein, et qui sont, puisqu'il faut être transparent, hein, qui vont entre 1450 euros net à 1800. Hein. Donc on est vraiment dans une logique, là aussi, parce que c'est important. Parce qu'au niveau social, il faut être exemplaire. Nous avons une politique sociale. Alors, d'abord, puisque nous avons plus de 10 salariés, il y a délégué, qui est d'ailleurs une déléguée, au niveau des salariés. Nous avons des dialogues sociaux. Il y a eu même des dialogues sociaux, des fois, assez vifs, hein, parce que, clairement, moi, en tant que président, je suis un peu le chef d'entreprise là-dedans. Hein, et je n'ai pas toujours le même point de vue que le représentant des salariés. Mais ça fait rien, on discute et on trouve des solutions. Et on a même fait... On a même signé avec l'ensemble des salariés, parce que cela se passe bien sûr bien dans la transparence et dans la synergie, on a même signé une convention avec une charte particulière au niveau des salariés de l'AIC qui tiennent compte de la spécificité de ce travail. C'est à la fois entre le travail d'animateur, ça a un côté de professeur, ça a un côté d'organisateur, donc tout cela... C'est fait, tout est formalisé, il n'y a pas une heure supplémentaire qui ne soit pas payée, et on est dans une logique de transparence totale au niveau social, et c'est important, et je me permets de le dire, et je ne vais pas être hypocrite, cela contraste singulièrement avec la façon méprisante dont sont traités les salariés de la fédération, et heureusement qu'il y a eu cette mobilisation. Il est important, quand on est une association, d'être exemplaire dans tous les domaines. Quand on n'est pas exemplaire dans un domaine, ça veut dire qu'il y a quelque chose à anguille sur roche. Et ça veut dire que l'on fuit la modernité et que l'on a des tactiques qui souvent sont très vaseuses, pour ne pas dire plus, pour ne pas tomber dans la diatribe. Hein, mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc moi j'invite tous les responsables ichikéens à avoir une politique sociale qui soit une politique respectueuse du droit des salariés, c'est ce que nous avons essayé, que nous réussissons, je crois, au niveau de la Ligue Corse. Voilà. Alors, disons qu'on a un ensemble d'activités avec ce formidable organisation que constitue aujourd'hui la Ligue Corse.
Alors voilà, avec cette petite parenthèse politique hein, que tu viens de nous faire, moi je ne rentrerai pas dans ces considérations, bien entendu. Mais revenons sur l'accord, sur deux derniers points qui vont aussi nous intéresser, Léo, si tu veux bien. Peut-être le premier point avant de finir, je voudrais qu'on voit à la fin comment venir en Corse pour cette Open Corsica, quels sont les moyens. Mais avant ça, je voudrais que tu nous parles aussi des résultats, je dirais, sportifs de la Corse au niveau général. Il y a déjà un maître international insulaire, Peut-être un deuxième en gestation, ça tu vas nous le dire. Et puis il y a aussi les résultats au championnat de France des jeunes, dont tu sais que on sait bien que tu suis ça de très près, avec des résultats plus qu'encourageants. Alors est-ce que tu peux nous parler de ces résultats, de rappeler ce maître international corse, ce premier maître international corse, qui est quand même un résultat sportif remarquable, et peut-être, pourquoi pas, dans l'avenir, est-ce que un premier grand maître corse, est-ce que tu vois venir un premier grand maître corse? Et puis aussi les résultats chez les jeunes. Et avant d'entendre les réponses de Léo Battesti, on va faire une petite pause musicale dans Fréquence Diagonale avec Triad. Breathe, à tout de suite. Thank you.
il est certain que nous avons privilégié le développement de masse, mais pour autant, nous n'avons pas négligé l'élite. Il y a forcément des jeunes plus doués que d'autres. Et notre but a toujours été, et de plus en plus, depuis ces deux dernières années, de mieux les encadrer, de leur donner tous les moyens pour s'épanouir et pour devenir de plus en plus forts. Et les résultats sont là. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé, il y a 2 ans, à Scola Gursa di Eccellenza, l'école corse de l'excellence. C'est un pôle espoir.